débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Bonjour à toutes et à tous, c'est tout un plaisir de vous retrouver sur le débat BBC Afrique, Africa Radio. Ma chère Liliane, je me réjouis de partager de nouveau le micro avec vous.
Quel plaisir aussi pour moi, Saint-Ish Mantar Tomté, de vous retrouver après vos vacances. En tout cas, bonne reprise à vous, chers partenaires. Merci. Notre premier sujet, c'est le Sénégal. Calme relatif vendredi après-midi au moment où nous enregistrons cette émission. Mais classe politique et population retiennent leur souffle car le week-end s'annonce mouvementé, Saint-Ish.
Alors que les deux parties s'accordent sur la violence sans précédent des dernières manifestations, chacun va de son interprétation quant aux causes. L'opposition portée par Ousmane Sonko et le M2D entendant le mouvement de défense de la démocratie met sur la table des revendications tant politiques que sociales. Le président Macky Sall de son côté a promis des réajustements pour répondre, dit-il, à la colère des jeunes. Mais est-ce que cela suffira pour les calmer? Nous en parlerons, Liliane.
Et notre deuxième sujet, c'est la Côte d'Ivoire qui pleure. Son premier ministre, Ahmed Bakayoko, est décédé cette semaine en Allemagne. 9 mois après son prédécesseur, Amadou Ngon Koulibaly, sa mort intervient alors que son parti, le RHDP au pouvoir, a remporté les législatives du 6 mars dernier, selon les résultats provisoires.
Une victoire également revendiquée par l'opposition qui a introduit des contestations et recours auprès de la Cour suprême. Une opposition qui avait fait le pari de prendre le contrôle de l'Assemblée nationale pour rééquilibrer les rapports de force. A-t-elle donc échoué et quelles peuvent être les conséquences du décès de Ahmed Bakayoko sur le jeu politique? Le débat à suivre.
Pas de coup de théâtre donc à Rabat au Maroc. Patrice Motsepe a été élu vendredi par acclamation à la tête de la Confédération africaine de football. La FIFA a imposé son candidat en négociant et en obtenant le désistement de 3 autres candidats qui étaient en lice.
Et l'élection est perçue par certains sur le continent comme une ingérence personnelle de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Quel défi attend donc désormais le milliardaire sud-africain à la tête d'une structure dont la crédibilité est remise en cause? Voilà pour le sommaire, Liliane.
Merci, Saint-Ish. Et notre invité cette semaine est Alioune Badara Cissé, médiateur de la République du Sénégal, qui intervient de tout bas.
Un immense plaisir que je partage avec vous.
Brève présentation de notre invité. Vous êtes né, M. Cissé, le 16 février 1958 à Saint-Louis, au Sénégal. Vous êtes avocat en politique, membre de l'Alliance pour la République APR au pouvoir, ancien ministre des Affaires étrangères. Vous avez été secrétaire général du gouvernement et directeur de cabinet du Premier ministre. Impossible, hein, Monsieur le ministre Cissé, de citer tous les diplômes universitaires que vous avez obtenus. On va tout de même souligner que vous avez une maîtrise de droit des affaires, une maîtrise des langues étrangères appliquées, anglais et espagnol, de l'Université de Toulouse en France. Et vous êtes donc à Touba, Monsieur Cissé, présenté comme une ville sainte pour les mourides et avec son chef religieux réputé influent et très écouté par la classe politique. Qu'est-ce que vous cherchez en ce moment à Touba?
C'est à Touba que je vis. J'ai décidé d'y élire domicile et résidence, non pas secondaire, mais à titre principal, même que je sois originaire et natif de la ville de Saint-Louis du Sénégal. J'ai quand même été directeur de cabinet de l'actuel président de la République quand il avait été premier ministre et ministre des Sports. J'avais été désigné par ses soins pour tenir le cabinet.
Précision importante, hein. En tout cas, merci à vous. Et vous êtes accompagné dans cette émission par 2 journalistes. René Soglo, journaliste à Fraternité FM de Parakou au Bénin. Nous avons également en ligne d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Wakalito Ouattara. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, j'allais dire plutôt bonjour. Et vous êtes rédacteur en chef du journal d'Abidjan et vous êtes donc en ligne d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Notre premier sujet, Saint-Ish, avec vous, et c'est le Sénégal.
Le pays de la Teranga qui a enterré ses morts, la tension est retombée d'un cran dans le pays après la mise sous contrôle judiciaire de l'opposant Ousmane Sonko, accusé de viol par une jeune femme. Une accusation que rejette d'ailleurs l'opposant qui y voit un complot politique, d'où la colère de ses partisans. Et à sa sortie de garde à vue, Ousmane Sonko a appelé à la mobilisation générale, de même que le mouvement de défense de la démocratie qui regroupe des partis politiques ainsi que des organisations de la société civile. Et en face, le président Macky Sall a dit comprendre la colère de la rue et l'a imputée aux difficiles conditions de vie dues aux restrictions anti-Covid. Monsieur Alioune Badara Cissé, vous faites partie des personnalités influentes au Sénégal dont l'intervention a été saluée parce que selon certains observateurs, vous avez dit la vérité, notamment au président Sall. Vous lui avez en l'occurrence demandé de prendre la parole. Il l'a fait. Est-ce que vous avez été convaincu, rassuré ou plutôt déçu après son intervention?
J'étais déçu. Je pense qu'il était important pour le chef de l'État sénégalais de prendre la parole à un moment où son peuple, notre peuple, était en plein dans la chenille. Je pense que son allocution du lundi ou du mardi a dû rafraîchir les ardeurs de la rue et ramener un calme que je souhaite durable au Sénégal, qui n'a pas connu en réalité ce genre de manifestation qui aurait pu nous conduire à des situations ingérables.
Vous êtes rassuré, mais beaucoup trouvent que le président n'a pas dit l'essentiel, qu'il n'a pas dit ce qu'on attendait de lui. Il a résumé en quelque sorte le problème et la colère des jeunes aux problèmes d'emploi et des difficultés économiques. Est-ce qu'il a eu raison d'occulter les critiques, notamment sur la gouvernance politique émise par l'opposition et la jeunesse aussi?
Je suis très à l'aise pour parler de gouvernance politique. Nous avons l'obligation, pouvoir comme opposition, de respecter le calendrier électoral. Le calendrier républicain est celui-là qui nous tient pour qu'à période régulière, dans un vaste élan de respiration démocratique, notre pays puisse voir répéter à sa tête, ou pas d'ailleurs, cela qu'il aura choisi de voir les diriger. Le chef de l'État a vécu une situation extrêmement difficile et je pense qu'en l'interpellant, j'avais l'intime conviction qu'il s'adresserait à sa jeunesse, toute confession politique confondue d'ailleurs, et qu'il n'était pas attendu qu'il puisse adresser tous les problèmes posés par cette jeunesse-là. Je pense qu'il fallait d'abord que la jeunesse retrouve les demeures, le lieu de travail, les ateliers, et qu'on nettoie la ville, et que finalement, un dialogue puisse être tenu entre lui-même ou les instances qu'il aura désignées à cet effet, et ces jeunes qui ne sont pas tous d'ailleurs l'émanation de partis politiques, hein. C'est des jeunes des banlieues, c'est des jeunes des villes, c'est des jeunes de l'immigration, c'est des jeunes de la campagne, c'est des jeunes qui ont exprimé le ras-le-bol, qui en profit d'une situation délétère qui aura prévalu, et vous l'avez bien dit, suite à l'interpellation d'un des opposants les plus célèbres du Sénégal.
Peut-être aussi des jeunes en colère contre les mesures mises en place pour lutter contre la Covid-19. En tout cas, c'est ce que a semblé dire le président Macky Sall lors de son discours. Alors, monsieur Cissé, ces gestes et annonces d'apaisement n'ont visiblement pas été suffisamment forts pour convaincre l'opposition sénégalaise et peut-être même aussi ces jeunes Sénégalais auxquels il s'adressait de ne pas manifester samedi puisque l'opposition appelle à de nouvelles protestations.
La manifestation dans un régime démocratique est ce qu'il y a de plus normal. Le président, il me semble, ne devrait jamais avoir l'ambition de faire taire les manifestations. Ce serait la plus grosse erreur de ne jamais être informé de l'état d'esprit des populations. Ce que j'ai souhaité qu'il fasse, c'était certainement de faire en sorte que les troubles, que les violences, que les meurtres puissent cesser et que le sang soit lavé du macadam et que le Sénégalais reprenne son rythme normal. Quitte à ce que les dialogues se perpétuent sous d'autres formats. Mais empêcher l'opposition de manifester, comme ça a été le cas hier, avant-hier ou peut-être aujourd'hui, et tant que le Sénégal demeurera Sénégal, ne me semble pas être une bonne stratégie. Je ne me pense pas que pour un président issu de l'opposition lui-même, qu'ils puissent venir dire aux gens, vous ne pouvez plus manifester, vous ne devez plus manifester, ça n'existera pas dans mon pays.
Monsieur, c'est alors, voilà, peut-être vous vous dites que c'est, on a tourné définitivement la page des violences, en attendant évidemment ce qui va se passer samedi. Est-ce que pour vous, c'est le calme avant la tempête ou s'achemine-t-on vers un apaisement sur la durée et peut-être à ce dialogue que vous espérez entre pouvoir et opposition sur les points qui les divisent?
Ce dialogue aura lieu dans un climat apaisé. Sans pour autant qu'on en fasse un préalable, il me semble que ce sera lorsque les esprits seront moins réchauffés, que l'on pourra se faire face, non pas en chien de faïence, mais en patriote sincère, soucieux tous et chacun du devenir du Sénégal pour les années à venir.
En attendant, il y a un appel à manifester samedi.
Mais j'ai compris. J'ai dit, je suis d'accord que les gens manifestent. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas parce qu'on manifeste qu'il va y avoir de la violence.
Ceux mais justement, Monsieur Cissé, comment garantir qu'il n'y aura pas de débordement comme ce qu'on a vu aux précédentes manifestations?
Madame, je ne suis pas un devin. L'appel à la manifestation est une manifestation, excusez la répétition, tout à fait banale dans une démocratie. Ceux-là qui ont convoqué cette réunion, même qu'ils aient dit que ce sera sur autorisation ou pas, encore que le Sénégal ne reconnaît plus le régime de l'autorisation à manifester, mais ils ont dit qu'il nous faut être encadrés par les forces de l'ordre auxquelles nous ne voulons plus faire face. Je pense que cela suffit amplement pour qu'on ne puisse pas présager de ce que ce sera violent ou pas violent. Je pense que nous n'avons plus intérêt. C'est nous quand même qui partageons le quotidien de nos collègues et nous avons vu le sang couler dans nos familles, dans nos hameaux, dans nos villes et dans nos campagnes. Et nous pouvons dire « cela suffit ». Mais en disant que cela suffit, il nous faut percer l'abcès, le purger et soigner la plaie. C'est ce que devrait pouvoir être fait, autant par l'opposition que par le pouvoir. Nul.
Et c'est quoi cet abcès aujourd'hui, Monsieur Cissé, s'il vous plaît?
Mais vous l'avez dit en introduction, c'est un peu...
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Bonjour à toutes et à tous, c'est tout un plaisir de vous retrouver sur le débat BBC Afrique, Africa Radio. Ma chère Liliane, je me réjouis de partager de nouveau le micro avec vous.
Quel plaisir aussi pour moi, Saint-Ish Mantar Tomté, de vous retrouver après vos vacances. En tout cas, bonne reprise à vous, chers partenaires. Merci. Notre premier sujet, c'est le Sénégal. Calme relatif vendredi après-midi au moment où nous enregistrons cette émission. Mais classe politique et population retiennent leur souffle car le week-end s'annonce mouvementé, Saint-Ish.
Alors que les deux parties s'accordent sur la violence sans précédent des dernières manifestations, chacun va de son interprétation quant aux causes. L'opposition portée par Ousmane Sonko et le M2D, entendant le mouvement de défense de la démocratie, met sur la table des revendications tant politiques que sociales. Le président Macky Sall, de son côté, a promis des réajustements pour répondre, dit-il, à la colère des jeunes. Mais est-ce que cela suffira pour les calmer? Nous en parlerons, Liliane.
Et notre deuxième sujet, c'est la Côte d'Ivoire qui pleure. Son premier ministre, Ahmed Bakayoko, est décédé cette semaine en Allemagne. 9 mois après, son prédécesseur, Amadou Ngon Koulibaly, sa mort intervient alors que son parti, le RHDP au pouvoir, a remporté les législatives du 6 mars dernier, selon les résultats provisoires.
Une victoire également revendiquée par l'opposition qui a introduit des contestations et recours auprès de la Cour suprême. Une opposition qui avait fait le pari de prendre le contrôle de l'Assemblée nationale pour rééquilibrer les rapports de force. A-t-elle donc échoué?
Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Bonjour à toutes et à tous, c'est tout un plaisir de vous retrouver sur le débat BBC Afrique, Africa Radio. Ma chère Liliane, je me réjouis de partager de nouveau le micro avec vous.
Quel plaisir aussi pour moi, Saint-Ish Mantar Tomté, de vous retrouver après vos vacances. En tout cas, bonne reprise à vous, chers partenaires. Merci. Notre premier sujet, c'est le Sénégal. Calme relatif vendredi après-midi au moment où nous enregistrons cette émission. Mais classe politique et population retiennent leur souffle car le week-end s'annonce mouvementé, Saint-Ish.
Alors que les deux parties s'accordent sur la violence sans précédent des dernières manifestations, chacun va de son interprétation quant aux causes. L'opposition portée par Ousmane Sonko et le M2D entendant le mouvement de défense de la démocratie met sur la table des revendications tant politiques que sociales. Le président Macky Sall de son côté a promis des réajustements pour répondre, dit-il, à la colère des jeunes. Mais est-ce que cela suffira pour les calmer? Nous en parlerons, Liliane.
Et notre deuxième sujet, c'est la Côte d'Ivoire qui pleure. Son premier ministre, Ahmed Bakayoko, est décédé cette semaine en Allemagne, 9 mois après son prédécesseur Amadou Ngon Koulibaly. Sa mort intervient alors que son parti, le RHDP au pouvoir, a remporté les législatives du 6 mars dernier, selon les résultats provisoires.
Une victoire également revendiquée par l'opposition qui a introduit des contestations et recours auprès de la Cour suprême. Une opposition qui avait fait le pari de prendre le contrôle de l'Assemblée nationale pour rééquilibrer les rapports de force. A-t-elle donc échoué et quelles peuvent être les conséquences du décès de Ahmed Bakayoko sur le jeu politique? Le débat à suivre.
Pas de coup de théâtre donc à Rabat au Maroc. Patrice Motsepe a été élu vendredi par acclamation à la tête de la Confédération africaine de football. La FIFA a imposé son candidat en négociant et en obtenant le désistement de 3 autres candidats qui étaient en lice.
Et l'élection est perçue par certains sur le continent comme une ingérence personnelle de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Quel défi attend donc désormais le milliardaire sud-africain à la tête d'une structure dont la crédibilité est remise en cause? Voilà pour le sommaire, Liliane.
Merci, Saint-Ish. Et notre invité cette semaine est Alioune Badara Cissé, médiateur de la République du Sénégal, qui intervient de tout bas.
Un immense plaisir que je partage avec vous.
Brève présentation de notre invité. Vous êtes né, M. Cissé, le 16 février 1958 à Saint-Louis, au Sénégal. Vous êtes avocat en politique, membre de l'Alliance pour la République APR au pouvoir, ancien ministre des Affaires étrangères. Vous avez été secrétaire général du gouvernement et directeur de cabinet du Premier ministre. Impossible, hein, monsieur le ministre Cissé, de citer tous les diplômes universitaires que vous avez obtenus. On va tout de même souligner que vous avez une maîtrise de droit des affaires, une maîtrise des langues étrangères appliquées, anglais et espagnol, de l'Université de Toulouse en France. Et vous êtes donc à Touba, monsieur Cissé, présenté comme une ville sainte pour les mourides et avec son chef religieux réputé influent et très écouté par la classe politique. Qu'est-ce que vous cherchez en ce moment à Touba?
C'est à Touba que je vis. J'ai décidé d'y élire domicile et résidence. Non pas secondaire.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
J'ai quand même été directeur de cabinet.
Notre grand témoin cette semaine est René, Alioune Badara Cissé, médiateur de la République du Sénégal. Il intervient de Touba au Sénégal. René Soglo, journaliste à Fraternité FM importante au Bénin.
En tout cas, merci à vous.
Vous êtes accompagné dans cette émission par deux journalistes, rédacteur en chef Soglo, du journal Fraternité FM de Paracou au Bénin. Nous avons cette émission également en ligne d'Abidjan sur africaradio.com. Bonsoir. Et faire part de vos observations sur la page Facebook. Et vous êtes rédacteur en chef du journal Africaradio d'Abidjan. Et vous êtes donc en ligne d'Abidjan sur le Sénégal avec notre invité, le ministre Badara Cissé. Avec vous, c'est le Sénégal.
Monsieur le ministre Cissé, c'est mort. À part vous qui avez parlé après, aussi, la mise sous contrôle d'autres personnalités influentes, notamment des accusés des appels, des guides religieux. On a entendu d'autres personnalités sénégalaises qui semblaient dire que la manifestation pourrait également être le fait de quelques lobbies mécontents à la mobilisation au Sénégal. Je vous cite cette déclaration du président du Conseil économique, organisations sociales et de l'environnement, M. Idrissa Seck, qui a invité les manifestants à ne n'hésite pas à ne pas se laisser manipuler ni infiltrer par des intérêts en cagoulé nationaux comme internationaux. Vous faites partie de ne pas avoir accédé au Sénégal dans l'intervention aux ressources pétrolières et gazières du Sénégal. Ce sont les mots des observateurs. Qu'est-ce que vous en pensez?
Dit la vérité, notamment au président Sall.
Je lui avais, en l'occurrence, demandé de prendre la parole.
Il l'a fait. Est-ce que vous avez été convaincu, rassuré ou plutôt déçu?
Social et environnemental, l'étude de la responsabilité. Je pense qu'il était important pour le chef de l'État d'aller de prendre la parole. L'objectivité de sa déclaration, non le constat sur le terrain, qui en plein dans la vie d'une telle analyse.
Je pense alors, que son au-delà des politiques et aussi de ces jeunes dont vous avez parlé, est-ce qu'il peut y avoir d'autres mains derrière ce qui se passe, ce qui s'est passé?
Que je souhaite durable. Il me semble qu'il y a qui n'a pas connu raison d'élément et en concours de manifestation, explosion qui voulait nous conduire à des violations de violence qu'on a ingérées vécu à Dakar.
Vous êtes rassuré, mais beaucoup trouvent que le président n'a pas dit l'essentiel, qu'il n'a pas dit ce à quoi ce qu'on attendait de lui. Il a résumé en quelque sorte le problème et la colère des jeunes au problème d'emploi et des difficultés économiques. Est-ce qu'il a eu raison d'occulter les critiques, notamment sur la gouvernance politique émise par l'opposition et la jeunesse aussi.
Je suis d'accord, rien n'est imprévisible, parce que ce qui s'est passé, c'est pas très à l'aise pendant trois mois de gouvernance, mais le gouvernement se prévoit. Nous avons l'obligation de pouvoir, ni le président ni les deux l'opposition dans son calendrier électoral, pour lui détruire ce qu'il a un calendrier républicain et celui-là républicain, si le pouvoir change la période régulière, que tout nous le meilleur élan et à la récréation démocratique, les jeunes qui ont notre pays en pouvoir sont allés un vrai pas loin à sa tête, qui pendant les derniers jours de la manifestation, c'est là qu'il a choisi un élan de pouvoir et d'empathie avec les forces de l'ordre. Le chef de l'État qu'ils ont nourri, qu'ils ont alimenté, qu'ils ont abreuvé, qu'ils ont embrassé. Et je pense qu'à l'interpellant, j'avais l'intime conviction...
Monsieur Badaras Cissé, la société civile a dénoncé la présence des miliciens, d'après elle, recrutés par le pouvoir, on parle d'énergie, pour s'en prendre aux manifestations, aux manifestants. Et d'ailleurs, nous avons reçu le ministre conseiller du président Macky Sall qui a reconnu l'existence de ces personnes, qu'il a présenté comme étant, semble-t-il, des policiers en civil. Est-ce que vous avez également eu connaissance de cette énergie? Et deuxième aspect, la société civile également, notamment Yanamar, affirme qu'il y a des policiers qui continuent de pourchasser certaines manifestations dans les maisons pour les interpeller. Est-ce que vous pouvez vous exprimer sur ces deux points?
Les jeunes des banlieues, c'est les gentils civils, les jeunes, beaucoup de l'immigration, c'est des jeunes. Yanamar a beaucoup de respect pour des jeunes qui ont exprimé leur rôle d'évangile en profit du jeu qui n'est pas délétère la preuve qu'on a prévue. J'ai observé moi-même en suivant à l'immigration, les dents de président de Lyon, qu'il y avait énormément d'énergumènes.
Peut-être aussi des jeunes en colère contre les mesures mises en place pour lutter contre la COVID-19. En tout cas, c'est ce que a semblé dire le président Macky Sall lors de son discours. Alors, monsieur Cissé, ces gestes et annonces d'apaisement n'ont visiblement pas été suffisamment forts pour convaincre l'opposition sénégalaise et peut-être même aussi ces jeunes Sénégalais auxquels ils s'adressaient de ne pas manifester samedi puisque l'opposition appelle à de nouvelles protestations.
La manifestation des gens dans le régime démocratique, qu'il y a des lignes normales devant les tribunaux, le président, parce qu'il y a un endroit, ne devrait jamais avoir l'ambition, le bonhomme n'est pas un apparent militaire ou pour la plus qui n'a pas décliné de ne jamais être informé de l'état d'esprit des populations. On le voit juste avec un bâton. Ce que j'ai souhaité, les gens, la période des tontons, c'était certainement.
Donc vous avez aussi vu l'énergie auprès des forces de sécurité avec armée de bâtons.
Et que le sang, je n'ai pas dit que j'ai vu d'énergie. Et que le Sénégalais,
des personnes qui ne portaient en apparence son rythme normal, tenu qu'il est rattaché aux forces de défense et de sécurité et qui portaient des bâtons. RP
perpétue sous d'autres formats de force de l'ordre, empêcher l'opposition de manifester, comme une confrère hier à Marseille ou l'autre, je n'en sais rien. Ou est-ce que le Sénégal du sol de la Sénégala ne me semble pas une bonne stratégie, je ne l'avouer. Je n'étais pas sur le terrain. Je dois tout simplement dire de l'opposition, toute la rigueur issue de l'opposition lui-même qui puisse venir les gens
de l'intérieur qui a capacité de devenir plus manifester l'ordre. Le préfet de la ville de Dakar,
peut-être vous vous dites que c'est... On a su l'arrestation de jeunes par les violences en attendant évidemment ce qui va se passer samedi. Dans est-ce que pour vous, c'est le calme avant la tempête ou ça chemine-t-on vers un apaisement sur la durée et peut-être à ce dialogue que vous espérez entre pouvoir et opposition sur les points qui les divisent?
Un climat apaisé, mais également la libération aura lieu de ceux-là qui sont en prison. Bien avant l'avènement des qu'on en fasse un préalable, et depuis l'avènement des troupes, il me semble que je pense lorsque moi, les jeunes frères seront moins isolés, que l'on pourra se faire face, le connaissant personnellement, mais en patriote qui n'est pas dans ces catégories de violence, tous ces chacun des convictions devenues du Sénégal pour les années à venir.
En attendant, il y a un appel à manifester samedi.
De notre jeunesse. Je
me permets une dernière question et je rebondis mais sur le PASTEF. Comment, M. Sissé, comment garantir le président du PASTEF qui est donc ce qu'on a demandé à Macky Sall de dire clairement et sans ambiguïté qu'il n'est pas candidat à un troisième mandat? Est-ce que selon vous, M. Sissé, le débat de la présidentielle 2024 doit se poser justement maintenant?
La répétition tout à fait banal.
Pour moi, oui, il n'y a pas de
sérieux qui ont convoqué un débat juriste, même qu'ils aient dit le calendrier républicain à venir, sur autorisation ou pas, en tout cas, le Sénégal ne reconnaît plus le régime de l'autorisation à manifester, nous est dit qu'il faut tenir des élections à ce moment-là. Maintenant, qu'un leader de l'opposition veut reprendre au président de la République, nous ne voulons plus un engagement qu'il a pris antérieurement. Cela suffit amplement pour qu'on ne puisse pas entrer dans les victoires. Mais enfin, c'est un combat politique, ne comprennent en général.
Un engagement déjà pris, vous dites, M. Sissé, mais l'opposition estime qu'il y a ambiguïté.
Couler dans nos familles, mais vous dans nos hameaux, dans nos villes, dans nos campagnes. Nous pouvons dire national, international, au en disant que cela suffit, que c'est vraiment réduire la paix, le juger et soigner la paix. C'est ce que devrait être électoral. Autant faire son engagement de cette nature, nul.
Et c'est quoi cet abcès aujourd'hui, M. Sissé, s'il vous plaît?
Mais non, c'est normal.
Vous l'avez dit en introduction, il y a des ambitions avérées, certifiées,
les jeunes vies, d'affaiblir l'application du président de la barrière volontaire à la lutte de contre le coronavirus. Ce sont des jeunes sans emploi, qui bravent les océans, mais perdent de nourriture au point d'engagement. Ce sont des jeunes normaux, dans une démocratie. C'est un déphasage dans la même académie scolaire, dont on n'en connaît plus tant. Quand elle démarre, quand elle prend le climat social, c'est un dérèglement. Ils qu'on discuteront entre eux, qui fait que les populations les plus vulnérables
trouveront une solution.
Et quand on parle qu'en dernier ressort d'emploi réguliers,
nous, citoyens,
ils ont envie de faire entendre l'arbitrage d'une vie, que ce soit dans des monuments, qu'on
veut donner la chef de tennis ou se mettre.
En deux mots, Monsieur le ministre, que vous inspirez les attaques contre les intérêts français, notamment au champ et la station service
total? De notre confrère d'Abidjan, Ouattara Wakalito, rédacteur en chef du journal d'Abidjan, Ouakalito.
Merci, nous allons marquer une pause et poursuivre avec le deuxième sujet.
Oui, nous parlons de... Vous nous recevez bien.
Le débat BBC Afrique, oui, Africa Radio.
Justement, alors nous parlons
notre grand témoin
ces
cette semaine est Alioune Badara Cissé, médiateur de la
l'opposition
République du Sénégal,
d'autres
qui est en ligne
manifestations,
de
notamment ce Ouattara samedi 13 mars.
Rédacteur en chef du journal d'Abidjan. Et nous allons entamer notre second sujet.
Qu'il n'y aura pas de débordement.
C'est bien la Côte d'Ivoire
qu'on a observé lors
qui
des
est au menu. Le RHDP au pouvoir remporte la majorité absolue à l'issue des législatives du 6 mars dernier, selon les résultats provisoires de la commission électorale indépendante COI. Il a obtenu 137 des 255 sièges à l'Assemblée nationale contre 91 pour l'opposition qui dénonce des fraudes. Elle compte le prouver d'ailleurs devant le Conseil constitutionnel qui doit valider ou non les résultats provisoires. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre Ahmed Bakayoko Diambak, réélu chez lui à Séguéla, est décédé. Et nous allons commencer avec notre confrère M. Ouattara. M. Ouattara me fait signe qu'on l'a perdu, notre confrère en ligne d'Abidjan. Donc, on va passer avec un autre invité. Peut-être déjà la mort de Ahmed Bakayoko, donc réélu dans sa région d'origine, et qui ne sera donc plus là pour occuper, s'il le souhaitait évidemment, son siège à l'Assemblée nationale.
De ne pas céder. Un acteur politique majeur de la vie politique ivoirienne, de la répétition. Je voudrais étendre au président Ouattara l'énorme attristé, mais également à M. Adama Big Togo, qui est le coordinateur de l'équipe de campagne, qui a triomphé au niveau des dernières consultations électorales législatives. C'est un manque à gagner, c'est une perte qui récidive un peu le décès d'Amadou Gon Coulibaly, une Côte d'Ivoire, lors de périodes de très troubles, il y a bien peu, une république de Côte d'Ivoire qui a été le poumon de l'Afrique de l'Ouest.
Oui, vous avez écouté les deux, les sorties des deux protagonistes, ou principaux protagonistes de cette crise. D'abord Ousmane Sonko, ensuite le président Macky Sall. Ousmane Sonko a notamment accusé le président Sall d'être responsable des événements de ces derniers jours en poursuivant sa démarche, d'après l'opposition, d'instrumentalisation de la justice contre l'opposant Ousmane Sonko.
L'un va assurer la primature de la Cour Saint-Sud. Vous savez, ici, chacun essaie de jouer le drap de son côté.
L'idéal serait donc.
Et à ce sujet, monsieur le ministre, comment appréciez-vous que le président ait nommé son frère au poste de ministre de la Défense
de retrouver sa...
À souffrir qu'un ancien ministre des Affaires étrangères, totalement étranger à la vie politique ivoirienne, ne puisse pas entrer dans la fabrique de désignation, de nomination des uns et des autres.
Mais si Macky Sall, par exemple, nommait à lui seul son frère à la Défense, qu'en diriez-vous ?
Cela ressort exclusivement des prérogatives que la loi confère au président de la République. Je n'y vois inconvénient, aucun inconvénient si le frère du président Ouattara était comme souvent le même problème quand on prend les pays de l'Afrique de l'Ouest, souvent la liberté d'expression semble poser problème au niveau de certains chefs d'État, que ce soit en exercice, même...
Avant de venir au pouvoir,
René Soglo,
on a retrouvé notre confrère ivoirien. On me fait signe qu'on l'a perdu à nouveau. Pourtant, je le voyais pendant que le ministre parlait à l'écran, mais c'est dommage.
Espérons que nous pourrons le reprendre d'ici là. En attendant, l'avis de René Soglo.
Et je crois que c'est René, tout ça à vouloir faire taire nécessairement les gens.
Il faut dire que
cette disparition d'Ahmed Bakayoko.
Oui, René, aujourd'hui on est en train de chercher une issue à la crise. Est-ce qu'il n'est pas aussi important d'en chercher les causes? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de la part peut-être des autorités au niveau de la façon dont cette crise a été gérée, puisqu'il y a un opposant accusé d'une affaire de mœurs et il est en route pour se rendre au tribunal alors qu'il est convoqué, chemin faisant, il est interpellé, gardé à vue pour une autre cause.
Forcément, parce que si cette interpellation a déclenché ce séisme, l'inarrestation qui a entraîné donc ce trouble à l'ordre public,
on se demandait si une malédiction pesait sur le trône de Premier ministre face à cette
situation. C'est le deuxième chef de gouvernement qui décède en moins d'un an, en tout cas,
en 9 mois.
Vous savez que quand on parle de mort en Afrique, il y a beaucoup de spéculations autour. Et donc, la plus dommage qu'on enregistre depuis quelques jours en témoigne véritablement de l'emploi que ce deuil a dans le monde, que ce soit le président béninois, et bien d'autres. Plusieurs personnes ont tenu à présenter leurs condoléances à cet homme qui, véritablement, a marqué son temps et qui aurait pu mieux faire si la vie avait été rallongée.
Merci beaucoup, René Soglo. Saint-Tiche, la ligne avec Abidjan est très instable. Nous n'arrivons pas à garder longtemps en ligne notre confrère Ouattara Wakalito, qui n'est donc pas là. On va peut-être revenir à notre invité, M. Alioune Badara Cissé. M. Cissé, alors, le décès du Premier ministre intervient après la tenue, donc, on disait, des législatives avec la victoire du RHDP. et aussi une élection marquée par le retour de l'opposition. Vous pensez que finalement, avec cette élection qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, on va vers la normalisation de la vie politique en Côte d'Ivoire?
Je le souhaite amplement. Je pense que cet épisode de la Côte d'Ivoire est vite arrangé dans la cage aux oubliettes et que ce vaste pays de l'Afrique, construit au pas le pas par le fondateur, entre guillemets, le président Félix Houphouët-Boigny, retrouve ses marques de noblesse dans notre continent, en tout état de cause, dans notre sous-région. Je pense que la Côte d'Ivoire a beaucoup à donner à ses fils, a beaucoup à donner à l'Afrique de l'Ouest. Et ces dernières consultations électorales, même s'il y a toujours des choses à dire, hein, mais c'est déjà un premier pas largement et amplement franchi pour que nous puissions opposition comme pouvoir se retrouver autour de l'essentiel, qui est de reconstruire un pays déjà fort abîmé dans son tissu social, économique, culturel, industriel et tout quanti. Mais les ressources sont infinies pour un pays comme la Côte d'Ivoire, pour qui connaît.
Vous disiez qu'il y a, même s'il y a des choses à redire sur cette élection, ce serait donc quoi, M. Cissé?
Non, une élection, il y a toujours des contestations, il y a toujours.
D'autant plus que l'opposition, avant la proclamation des résultats provisoires par la CEI, revendiquait la victoire.
Oui, mais ça, c'est des pratiques communes dans tous les pays du monde. On a vu l'épisode américain il y a peu de temps. Il ne faut pas qu'on en fasse une affaire africano-africaine. Elle est universelle.
Merci. Saint-Tiche, on n'a toujours pas retrouvé, hélas, notre confrère. Allô, Saint-Tiche?
Je vous entends.
Saint-Tiche, avec René, peut-être on n'a pas retrouvé notre confrère d'Abidjan.
Alors, René, l'opposition pariait sur ces législatives pour pouvoir revenir, on va dire, en force avoir un moyen de contrebalancer les rapports de force avec le RHDP au pouvoir. Aujourd'hui, la CEI a déclaré le RHDP largement vainqueur de ces élections législatives. Est-ce que, selon vous, l'opposition a donc raté son retour, notamment le FPI de Laurent Gbagbo, qui est revenu et qui a participé à ce scrutin, il ne l'avait pas fait depuis une décennie. Est-ce que, selon vous, c'est un échec total pour l'opposition?
Allô, René?
Je ne pourrais vraiment pas dire que c'est un échec pour l'opposition ivoirienne. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que le président en place, Alassane Ouattara, et son parti, le RHDP, ont eu le temps de s'implanter véritablement sur le terrain par rapport à l'opposition qui a eu le mérite tout de même de se réunir, parce que vous avez dit tantôt avec cette coalition entre partis démocratiques de la Côte d'Ivoire, on parle de PDCI, et les partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo, ils ont obtenu tout de même quelques sièges, mais je voudrais souligner par exemple qu'après ces élections, ce parti, le RHDP, n'a plus la majorité qualifiée des deux tiers qu'il possédait par exemple depuis les dernières législatives en décembre 2016, avec ses 167 élus, ça prouve déjà qu'il y a un peu de changement. Et je voudrais aussi souligner le fait que ces élections se sont déroulées sans violence, contrairement à ce qu'on a vu par rapport à la présidentielle en 2020. Souvenez-vous, on a dénombré des morts, on a compté des morts.
87 morts et près de 500 blessés.
Voilà. Voilà, donc c'est déjà une avancée pour la Côte d'Ivoire. On peut noter qu'un peu de stabilité est en train de revenir dans le cœur donc des Ivoiriens. Alors on verra aussi le taux de participation qui n'a pas trop varié depuis 2016.
Qui est le même que 2016 justement.
38%.
Alors est-ce que là on peut pas dire justement que l'opposition qui voulait cette majorité parlementaire a péché en ne mobilisant pas? C'est parti.
Oui, parce que si les citoyens ne sortent pas pour voter, si les citoyens ne se montrent pas concernés par la chose, je crois que l'opposition ne peut pas avoir gain de cause. Maintenant, ceux qui sont sortis ont exprimé leur suffrage. Aujourd'hui, c'est ce qui comptera pour la suite. Tout compte fait, aujourd'hui, ils sont là, et notamment l'élection du fils aîné de Laurent Gbagbo, Michel
Gbagbo,
dans la commune de Yopougon. voilà, à Abidjan. C'est la plus grande commune du pays. Donc, il faut reconnaître que dans ce fief, par exemple, de l'ancien président Gbagbo, les choses n'ont pas évolué. Donc, c'est une nouvelle histoire politique qui commence.
Le retour annoncé de Laurent Gbagbo a été avancé, a été utilisé comme une stratégie pour son parti, pour peut-être encourager les électeurs à lui accorder leur suffrage à leur parti.
Oui, toutes les stratégies sont bonnes quand il s'agit de faire l'essentiel pour avoir le vote des populations, mais il faut reconnaître que peut-être à partir de ces élections, l'opposition ivoirienne peut commencer par se reconstruire pour véritablement se préparer pour les prochaines joutes électorales. Sinon, on peut reconnaître largement l'avance qu'a aujourd'hui le parti RHDP par rapport aux autres partis de l'opposition sur le terrain politique ou dans l'arène politique.
Merci beaucoup René Soglo. On va poursuivre avec notre dernier sujet, Saint-Tiche, l'élection à la tête de la Confédération africaine de football.
Au pas de course et sans transition, Liliane, comme vous l'auriez dit, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe a été élu à la tête de la fédération, de la CAF donc, et c'était ce vendredi. Le mania de l'industrie minière et propriétaire de l'équipe sud-africaine Mamelodi Sundowns succède donc à Ahmad Ahmad. Ce dernier a été suspendu, on le sait, de ses fonctions de président de la Confédération africaine de football. C'était en novembre dernier, en raison d'allégations et de corruption. Et M. Motsepe s'est présenté sans opposition au poste, vu que, suite à un accord négocié par la FIFA, les trois autres candidats ont donc désisté. René, je voudrais vous demander justement pourquoi est-ce que cette intervention, cet accord négocié de la FIFA suscite de la colère chez certains acteurs et observateurs sportifs sur le continent.
Peut-être que c'est trop flagrant ce qui s'est passé, cette initiative de Gianni Infantino, le président de la FIFA, de faire le tour du continent à l'approche de cette élection. Et on a senti peut-être qu'on a un peu forcé la main aux autres concurrents de ne pas se présenter face donc à cet homme d'affaires de 59 ans, qui est un véritable inconnu donc du monde sportif. Il faisait d'ailleurs figure d'outsider, on peut le dire, jusqu'à ce que ses trois rivaux ne se retirent et se rallient à sa candidature avant le vote. Et vous savez, l'argument avancé, on parle d'une vision commune pour célébrer l'unité sur le continent, mais est-ce que véritablement c'est de cette vision que viendra le développement du sport africain? Je ne pense pas. Une fois encore, la CAF doit pouvoir montrer qu'elle est autonome aujourd'hui après cette élection par acclamation, parce que l'image de l'institution, j'avoue, a été ternie par de multiples affaires ces dernières semaines ou ces derniers mois, par des soucis de finances et autres.
Oui, justement, René, est-ce que ces déboires de la CAF et toutes ces affaires de corruption et autres allégations qui ont été révélées ces derniers temps ne sont pas la cause pour laquelle Gianni Infantino et la FIFA ont décidé de prendre les choses en main et donc d'intervenir?
Est-ce que c'est parce qu'on met un milliardaire à la tête de la CAF qu'on ne peut plus parler de pot de vin ou bien de malversation financière? Je ne pense pas. J'estime que, pour ma part, cette histoire... Ahmad Ahmad, il était quand même l'élève préféré de Gianni Infantino, mais par la suite, il a été lâché, on peut le dire ainsi. Parce qu'il a fait appel par rapport à sa décision. Le tribunal arbitral du sport a un peu réduit sa peine. Ça prouve déjà qu'on peut lui reprocher des choses, mais aussi que derrière, je vais juste citer ce proverbe-là, qui veut tuer son chien, l'accuse de rage. Hein. Et puis ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, le défi, c'est de savoir si Motsepe pourra diriger librement et prouver qu'il n'est pas une marionnette aussi de la FIFA ou de Gianni.
Son indépendance.
C'est surtout le gros défi. Et on verra bien s'il va.
Monsieur Cissé, voilà, on parle aujourd'hui de comédie, simulacre d'élection. Quelle lecture faites-vous de la façon dont justement a été élu vendredi à Rabat le nouveau patron de la FIFA, de la CAF, pardon? Allô, monsieur Cissé?
Oui, madame.
Oui, votre lecture sur cette élection qui n'en était pas une?
Oui, c'est ce que je disais. Je disais que je trouvais malheureux et déplorable que l'Afrique ait pu savoir sur un compromis de quelques capitales africaines que ce soit. Le sport, ce n'est pas forcément la capacité de générer des revenus. Ce n'est pas un capitaine de Missouri qui soit la personne la plus indiquée pour diriger dans un sens sportif continental. La FIFA et son candidat, c'est leur affaire. Les Africains doivent pouvoir ne pas se voir parrainer par qui que ce soit pour diriger dans un sens qu'elle soit sportive, culturelle et tout quanti. Nous avions des candidats, dont parmi eux, un confrère qui s'est donné au sport autant qu'il a pu. Non pas tant qu'il fallait le lire, non, je ne suis pas un chauvin nationaliste, mais je pense qu'il fallait laisser les jeux se faire. De la même manière qu'on a Ahmad, qu'on a... Voilà.
Mais on avait vu venir la FIFA, pourtant, M. Cissé, on avait vu ce scénario se dessiner. Pourtant, les Africains n'ont manifestement pas fait d'efforts pour contrer cette initiative de la FIFA. Et certains chefs d'État sont d'ailleurs accusés, dont le Sénégalais Macky Sall, d'avoir contribué à, au déroulement de ce scénario de la FIFA.
Je trouve malheureux que nous ayons contribué dans une certaine mesure au silence des voix africaines qui auraient pu s'exprimer d'elles-mêmes. Mais dans cette matière sportive, comme vous le savez, comme c'est le cas d'ailleurs en diplomatie amateur, il y a l'Afrique du Sud, quand il y a le Nigeria, excusez-moi de citer des pays de chez nous, c'est toujours un peu sous sceau de certaines autres négociations que cela se fait. Mais je trouve que nous devons aujourd'hui, de manière patriotique, d'un point de vue continental, laisser les jeux se faire. Et je ne vois pas comment la FIFA aurait pu intervenir dans l'édification d'une équipe pour diriger l'UEFA ou des trucs de cette nature.
Ou en Asie.
Il faut que les Africains puissent... Oui, il faut que les Africains puissent tenir debout et se dire que nous voulons prendre nos destins entre nos propres mains et que cela devrait être compris et bien dit une fois pour toutes. Que ce soit mon président de la République ou un autre, je ne suis pas d'accord. D'abord, on les convoque à Dakar, qu'on les y reçoive, qu'on mette le candidat national à côté du candidat de notre territoire et qu'on vide un protocole ailleurs. Je ne suis pas d'accord. Je pense que inhibe les ambitions individuelles et collectives au profit de négociations sur des termes sur lesquels on n'a aucune maîtrise.
Merci,
Monsieur Cissé. Une dernière question pour René. René, la désignation par consensus évoquée veut peut-être dire aussi, veut peut-être supposer que le nouveau président devra prendre en compte quelques exigences des trois autres candidats. Est-ce qu'il pourra allier donc ces exigences des autres candidats à son calendrier à lui ? Comment il va le faire dans la pratique ?
On peut s'attendre, si ça ne marche pas, ce consensus, si ça ne marche pas, on peut s'attendre à d'autres crises très très prochainement. Si, par exemple, le président choisit de diriger autrement, parce que vous le savez, il a triomphé sans gloire. Il devrait peut-être prouver qu'il ne doit rien à Gianni Infantino ni à la FIFA, et en même temps prouver aux autres également qu'il a une parole à respecter par rapport à toutes ses promesses. C'est déjà dire que c'est parti déjà avec quelques problèmes qu'on peut voir à l'avenir, hein. Mais certainement avec son carnet d'adresse, il pourrait peut-être aider le football africain, et il sera jugé sur cela. Mais voilà, on ne sait pas s'il va être aussi généreux.
Merci Saint-Yves. C'est le moment, merci beaucoup à vous René Soglo, c'est le moment d'écouter les réactions de nos auditeurs laissées sur la page Facebook avec Didier Ladislas Lando.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @debatbbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/debatbbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour à Saint-Tiche, que nos internautes sont heureux de retrouver et bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Manifestation au Sénégal, Jean Zounon estime que la colère des populations s'explique par le fait que ces derniers pensent que le président Macky Sall se prépare pour un troisième mandat, ce qui justifierait son acharnement sur l'opposant Ousmane Sonko. À cela s'ajouterait la mauvaise gestion de la Covid-19 et le chômage des jeunes. De son côté, Abdourahmane Camara présente ses sincères condoléances au peuple sénégalais et aux familles des victimes et condamne les destructions massives des biens des citoyens. Didos Didier Afodo lui demande à notre invité s'il pense que le président Macky Sall a encore la confiance du peuple vu la colère de la population suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Côte d'Ivoire, Cyrus Nabegué présente ses condoléances à la famille du feu Ahmed Bakayoko et pense qu'il est temps que le président Ouattara supprime le poste de Premier ministre. Diomandé Amara Amos lui estime que le ministre Ahmed Bakayoko, qu'il appelle le Golden Boy, est parti en voyage et qu'il laisse un vide dans les cœurs. Un grand homme qui a su comprendre la jeunesse ivoirienne dans toute sa dimension, estime notre internaute. Vous voulez participer à l'émission, poser une question à notre invité ou donner votre avis sur un sujet? Rendez-vous sur notre page Facebook, le débat BBC Afrique-Africa Radio. Nous y publions chaque jeudi soir l'identité de notre invité et les sujets qui seront débattus au cours de l'émission. Vous n'aurez qu'à laisser votre avis ou question en commentaire. Espérant vous lire très bientôt, je vous souhaite un très bon week-end.
Bon week-end à vous, Didier Ladislas Landau. En conclusion, Monsieur Badara Cissé, peut-être en répondant à ces deux questions, le problème du troisième mandat revient. Est-ce que le plus simple n'est pas, peut-être pour Macky Sall, de confirmer qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat? Et aussi cette autre question, est-ce qu'il a toujours la confiance du peuple, puisque certains appellent à sa démission?
J'ai entendu et j'ai écouté le chef de l'État du Sénégal proclamer urbi et orbi qu'il n'était pas question de faire un troisième mandat, que lui-même s'était fait le devoir d'insérer cette disposition dans le corpus constitutionnel de la République du Sénégal. Je ne vois pas pourquoi, à chaque fois, il est utile de le lui faire répéter, de faire une profession de foi. Qu'on le tienne à ses mots et qu'on attende le moment venu. Si lui veut passer outre, il trouvera le peuple sénégalais devant lui, ça c'est très simple, donc il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un jeu auquel on va se livrer pour les charges que nous attendons qu'il exécute d'ordre et pour notre compte que nous le fassions répéter ceci et cela. Je pense que c'est une cause déjà entendue. Maintenant, on attendra, il tergiverse, le corpus politique sera là pour le lui rappeler. Les populations éventuellement pourraient être là pour le lui rappeler.
De et sur... façon,
ça n'appartient à personne.
Voilà l'autre question.
Allô?
Oui, M. Cissé, sur est-ce qu'il a toujours la confiance du peuple sénégalais?
Je pense qu'il a la confiance du peuple sénégalais qu'il aura élu avec 58% et des poussières. Bien entendu, maintenir la confiance sur un si grand nombre d'une installation à la fin de son mandat, c'est quasiment impossible. Et les dernières élections ont prouvé que cela s'est érodé. Maintenant, il a 2 ans pour reconquérir cette confiance aux fins exclusives de continuer à gérer ce pays sur la période transitoire qui conduirait au terme du mandat de 2024.
Merci.
Maintenant, sera-ce que sera suffisant pour que toutes ces ambitions puissent être acceptées, bues et avalées par les populations? Je ne le pense pas.
Merci beaucoup Alioune Badara Cissé, vous étiez notre grand témoin cette semaine. Vous êtes médiateur de la République du Sénégal, vous interveniez de Touba. Et merci à Ouattara Wakalito, rédacteur en chef journal d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, que nous n'avons pas malheureusement pu entendre longuement en raison des problèmes de liaison avec Abidjan. Merci à René Soglo, journaliste à Fraternité FM de Parakou au Bénin. Merci à Abdou Diop pour la réalisation à Dakar, Hugo Vallière à Paris. Merci à Didier Ladislas Londo qui est chargé de production. Pour écouter ou réécouter cette émission, il vous suffit de cliquer sur bbcafrique.com et africaradio.com et nous attendons toutes vos réactions sur facebook.com/débat-bbc-africa-radio. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, Saint-Tichement Tartomté.
Au revoir, Liliane Yatia.
Au revoir.